Bonjour Monseigneur Brouvé.
Bonjour Anne-Rose.
Le pape François a publié le 3 octobre dernier une encyclique, Fratelli Tutti, une encyclique sur la fraternité et sur l'amitié sociale. L'amitié sociale, c'est un terme qui interpelle parce qu'on n'entend pas souvent parler. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette amitié sociale dont veut nous parler le pape François dans son encyclique?
Donc, personne n'en parle parce que, tout simplement, je crois que c'est une trouvaille du pape François pour nous montrer comment l'amitié que nous pouvons vivre au niveau personnel entre des personnes individuelles, elle pourrait être un modèle, une méthode pour les relations sociales, donc à l'intérieur de la société, puis peut-être aussi au niveau de l'humanité entière pour les relations entre les peuples. Et il y a besoin d'amitié dans un monde qui est dur, dans un monde qui isole, dans un monde qui est fermé. Voilà ce que nous dit le pape. Et la fraternité, eh bien, c'est une façon de vivre cette amitié entre tous.
Alors, cette encyclique sur la fraternité, elle arrive à un moment où, dans cette crise du Covid, après le confinement, on a quand même eu le sentiment que tout le monde, tout d'un coup, prenait vraiment conscience de l'importance de la solidarité, de l'entraide, de la bienveillance, de la fraternité. Et puis, au fond, le pape François nous met quand même en alerte et nous met en alerte sur une sorte de dérive individualiste qui persiste quand même dans le monde. Est-ce que cette encyclique, c'est un peu une leçon à tirer des suites du Covid, de la crise du Covid, qu'on n'aurait pas peut-être assez comprise ou assez prise au sérieux?
C'est sûr que la crise du Covid, elle nous a fait comprendre combien nous avions besoin justement de relations, combien la distance sociale ne nous convient pas, même si pendant une période d'épidémie, c'est la seule solution qui vaille. Mais au fond, nous ne sommes pas faits pour avoir des masques, nous ne sommes pas faits pour être à distance. Nous sommes faits pour, au contraire, la proximité. Et la crise du Covid, le confinement, a révélé cela, ce besoin de fraternité. D'ailleurs, vous remarquerez que qui a-t-on applaudi pendant le confinement? C'était les personnes qui prenaient soin des autres, en particulier les médecins, ceux qui s'occupaient des autres. Donc c'était moins les métiers techniques que les métiers du soin.
Et alors, le pape François, justement, parle dans son encyclique, il illustre son encyclique avec surtout cette parabole du bon samaritain, qui est un petit peu la colonne vertébrale de cette encyclique, qu'il développe en disant bien que la fraternité, elle est hospitalité. Et là, ça rejoint ce que vous nous dites, Monseigneur Brouvé, avec ce souci qu'on a eu les uns des autres, et en particulier les soignants, pendant la crise du Covid.
Oui, c'est important. Dans un premier chapitre, le pape dresse un peu un portrait très réaliste, peut-être un peu sombre aussi. D'ailleurs, il appelle ça les ombres de notre monde présent, un peu sombre de la société dans laquelle nous vivons, de la culture globalisée et libérale qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes. Mais à la fin, il dit « marchons dans l'espérance ». Et il ouvre ensuite sur la parabole du bon samaritain en nous disant « La parole de Dieu nous amène justement cette lueur d'espérance. Nous ne sommes pas destinés simplement à nous détourner les uns des autres, à nous isoler. Nous avons une autre vocation. » Et elle nous est présentée justement par cette parabole du bon samaritain où un homme s'arrête et puis il s'occupe de la personne à terre, de la personne blessée. Qui est pour elle d'ailleurs un étranger, pour lui qui est un étranger, mais peu importe, il se penche vers lui. Et la leçon du pape, c'est de dire, au fond, on est l'un ou l'autre, soit celui qui s'arrête pour panser les plaies de celui qui est à terre, et là ça donne une espérance, soit on fait partie de ceux qui passent outre, qui passent leur route parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se préoccuper de celui qui est à terre, justement, de celui qui est blessé.
Ça veut dire qu'on a le choix entre aller en direction d'un monde qui se referme sur lui et un monde qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est ça?
Oui, l'idée du pape, c'est que, enfin, ce que je comprends, c'est que, au fond, nous ne changerons ce monde que si chacun d'entre nous, nous nous arrêtons sur notre prochain, celui, et en particulier s'il est fragile ou vulnérable. C'est-à-dire que ça commence déjà par une décision personnelle. On pourra toujours accuser les autres, accuser les gouvernements, les autorités, les institutions, tout ce qu'on veut, l'État. Ça, c'est assez simple. Mais lui, il nous dit que chacun prenne la décision de s'arrêter sur son prochain et puis de le faire pas tout seul. Il fait remarquer dans l'encyclique que cet homme, ce Samaritain qui est en voyage, eh bien, au fond, il porte la personne blessée jusqu'à l'auberge. Donc, il trouve un aubergiste. Donc, il trouve quelqu'un pour l'aider. Il ne fait pas ça tout seul.
Il trouve de l'aide pour prendre soin de l'autre, en fait.
Voilà. Et donc, il dit, on s'inscrit dans un « nous ». Ouais. Ce n'est pas seulement moi qui sauve le monde, si je puis dire, mais c'est ensemble qu'on le fait.
Au fond, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir une belle maison commune s'il n'y a pas le « nous » dedans, s'il n'y a pas le « nous » qui incarne la maison commune.
Oui, alors ça, c'est une chose qui est extrêmement... disons, centrale hein, dans la foi catholique, c'est que le péché atomise notre humanité, le péché nous disperse, le péché nous éloigne les uns des autres, mais la communion, le salut fait la communion. Mmh. C'est-à-dire que le salut que nous trouvons en Jésus-Christ retisse le lien des faits. Et donc, si on veut sauver notre humanité, notre culture de l'isolement, des murs que nous dressons plus ou moins consciemment. Si nous voulons sortir de la solitude, en fait, c'est à travers le salut offert en Jésus-Christ. Mmh. Au fond, hein, pour nous, alors le pape ne le dit pas exactement comme cela, mais pourquoi travaille-t-il justement à cette sortie de la solitude ? C'est parce que c'est dans l'ADN de notre christianisme que nous devons retrouver la fraternité, que nous devons retrouver la communion. C'est les uns avec les autres. Mmh. C'est un « nous ». Au fond, à la fois dans la vie chrétienne, nous mettons en valeur l'aspect de liberté personnelle, la dignité de tout être humain. Mmh. Nous pouvons prononcer un « je » et c'est quand nous pouvons prononcer un « je » que nous sommes vraiment une personne humaine dans toute sa signification, dans toute sa plénitude. Hein, je peux être libre de mes choix, mais ça n'est jamais indépendamment des autres. Hein, nous sommes un « je », mais inclus dans un « nous ». Mmh. Et c'est ça qui fait la grandeur de la personne humaine, c'est que justement, elle vit une autonomie, mais pas une indépendance. Elle vit aussi en dépendance des autres.
Alors, un autre thème important de cette encyclique et qui découle de tout ce que vous venez de nous expliquer, Monseigneur Brouvé, c'est la question de la migration. C'est un sujet qui préoccupe le pape François depuis le début de son pontificat. Hein. C'est un sujet dont il parle souvent. Au fond, qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Qu'est-ce qu'il espère de nous ? On a l'impression par moments qu'il dénonce un peu le comportement des politiques ou de la politique de manière générale, mais en fait, c'est chacun de nous quand même qui l'interpelle sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus ?
Écoutez, il nous dit... alors, c'est vrai que d'abord, la question de la migration le préoccupe depuis le début de son pontificat. Mmh. Il est allé à Lampedusa. Oui. On l'a vu ramener un jour dans son avion des familles. Bon. Je crois que y a deux choses. D'abord, quand il parle de l'amitié, il dit l'amitié, elle est hospitalité. Ça veut dire que quand j'aime quelqu'un, je ne me referme pas sur... dans le face-à-face hein, de l'amitié ou de l'amour que j'ai pour cette personne, mais je suis forcément ouvert. D'ailleurs, on le voit, c'est pour ça qu'on pense que le mariage débouche hein, sur l'accueil des enfants, parce que l'amour ne s'épuise pas dans un face-à-face. L'amour est forcément fécond et s'ouvre au tiers. Voilà, et s'ouvre au tiers. Et une amitié qui marche bien, c'est quand elle est ouverte aux autres. Et l'hospitalité, c'est quoi ? D'ailleurs, comme la fécondité dans un couple, c'est... nous nous aimons tellement que nous avons envie que d'autres profitent de cet amour dans lequel nous vivons. On a envie que cet amour se répande. On a envie que d'autres connaissent la joie de notre amitié. D'où l'hospitalité, qui était vraiment un très très beau mot, parce qu'au fond, accueillir l'autre, c'est toujours une hospitalité. Avant de l'accueillir dans sa maison, on l'accueille dans son cœur. Ça, c'est une question qui nous est posée à chacun. Ensuite, je crois que par rapport aux migrants... le pape a une vision de... Alors lui c'est le pape, hein, c'est-à-dire qu'il voit le monde entier, il voit l'humanité entière.
Oui, d'ailleurs, d'une gouvernance mondiale, d'un besoin de gouvernance mondiale.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas en train de parler au Secours catholique de Tarbes-et-Lourdes.
Oui, oui.
Il n'est pas en train de nous faire la leçon. Il dit, au fond, on est dans un monde qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, un monde ultra-libéral. où les uns sont très riches, les autres sont de plus en plus pauvres. Et les témoins de ce dysfonctionnement, ce sont les migrants. C'est-à-dire ces personnes qui ne sont plus chez elles dans leur pays, parce qu'elles ne peuvent plus y vivre, et qui ne sont pas les bienvenues dans le pays d'à côté. Et c'est comme c'est ce qu'il appelle la culture du déchet. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des personnes qui sont laissées sur la route entre ces deux mondes et qui habitent soit dans des camps ou qui s'entassent dans des bateaux pour traverser la Méditerranée. Et le pape, vous voyez, il nous explique ça, ça ne va pas. Ce témoignage de ces personnes qui sont laissées là, sans patrie, ne peut pas nous satisfaire. Je ne crois pas qu'il nous fait la leçon. Il ne nous fait pas une leçon de morale. Il y aura beaucoup de gens qui seront certainement très énervés, qu'ils trouveront naïfs. Mais je pense qu'il faut que nous accueillions la parole du pape comme ce qu'elle est, non pas la parole d'un gouvernant. Ce n'est pas lui qui est responsable de l'accueil des migrants en France ou en Italie ou en Espagne. Il n'a pas cette charge politique. Il a la charge de faire que notre conscience ne s'endorme pas en disant c'est leur problème, c'est pas le nôtre, ils ont qu'à se débrouiller dans leur bateau, ils n'avaient qu'à pas partir de leur pays. Bon, je crois qu'il nous, il nous réveille en nous disant nous ne pouvons pas laisser ce phénomène s'accroissant parce qu'il nous dit quelque chose sur la manière dont notre monde est constitué et dont notre monde est à la dérive.
Et alors, il parle aussi de cette question de la culture qu'il évoquait déjà dans son dernier texte « Querida Amazonia ». Il dit bien que, en fait, d'accueillir des cultures différentes, ça ne remet pas en cause notre propre culture, notre propre histoire. Et ça, c'est aussi un argument qui rassure, parce qu'il ne nous demande pas de laisser tomber notre culture pour accueillir les cultures qui arrivent avec les migrants.
Oui. Il y a un thème aussi qui intéresse beaucoup le pape, c'est la question du peuple.
Oui.
C'est une question dont il parle beaucoup. Oui. Et donc là, il s'en explique un peu dans l'encyclique en disant vous parlez de l'amitié sociale. Je crois que c'est ce qui, pour lui, c'est ce qui caractérise un peuple dans sa constitution. C'est-à-dire que c'est un ensemble de gens qui vivent dans un même pays, sous les mêmes lois, avec aussi partageant une même culture. Et l'amitié sociale, c'est ce qui fait le lien entre les membres d'un même peuple. Il croit beaucoup à cette notion de peuple. Alors, il dit le libéralisme, au fond, détruit ce peuple dans sa cohésion, parce qu'il isole les individus. Il dit le populisme pervertit la notion de peuple, parce que ce sont des gouvernants qui utilisent cette sorte de solidarité du peuple, mais pour l'amener à son bien à lui qui gouverne et non pas pour le bien commun, qui est pour le bien du peuple. Et donc la question de la culture, elle est là présente parce que c'est ce qui fait, c'était très présent chez Jean-Paul II aussi, hein, mais pour Jean-Paul II, il voyait la culture comme ce qui fait le lien d'une nation. Mmh. Or, le pape François, il ne parle pas de nation. Il parle de peuple, c'est une catégorie, disons, plus populaire, peut-être plus vague aussi, mais en disant ce qui fait la culture, c'est cela. Et voilà. Et donc, d'où l'intérêt qu'il a pour le terme de culture.
Alors, cette fraternité, hein, il nous donne donc toutes ces notions importantes. Et puis, il en vient quand même à nous donner des coups de pouce. Hein. Comment fonder, sur quoi peut se fonder la fraternité pour nous guider un peu? Alors, la fraternité, eh bien, dit-il, elle se fonde sur le dialogue, sur la vérité, sur le pardon et sur la transcendance. Peut-être c'est important de développer un peu chacun de ces points, parce que oui, nous, on veut bien le suivre, le pape François, on veut bien l'écouter, on veut bien aller vers la fraternité, mais on a quand même besoin d'aide, on a besoin d'être guidé.
Oui, alors d'abord sur le dialogue, c'est évident parce que c'est le dialogue, c'est ce qui fait qu'on peut se parler, on peut s'écouter. Mais il dit un dialogue où on prend au sérieux ce qu'est l'autre. Hein. C'est pas des invectives comme parfois on les entend par exemple dans des débats politiques, sur les plateaux de télévision. C'est pas des dialogues, ce sont des dialogues de sourds où chacun veut veut sortir victorieux hein, de cet échange. Alors que là, il dit, dans le dialogue, on s'assoit, on parle, il y a de très belles expressions. Je pense qu'il a peaufiné tout au long de son épiscopat et de son pontificat pour montrer comment un dialogue a finalement obéi à des règles. Et la première règle, c'est de penser qu'on a quand même quelque chose en commun, qu'on a des principes communs, qu'on a des fondements communs. Moi, c'est ce que j'appelle la loi naturelle, c'est-à-dire reconnaître qu'au fond, il y a des lois de la vie sur lesquelles on vit et qui sont communs à tous les hommes. Mm-hmm. Ça, c'est important parce que s'il n'y a plus de principes éthiques communs, on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus parler. Chacun est seul avec sa propre morale. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en commun ? Plus rien. Et donc, c'est la loi du plus fort. Sur la vérité, il dit... Est-ce qu'il y a une vérité qu'on peut reconnaître en tout homme sur son existence ? Et puis, il dit surtout la vérité d'une situation. C'est-à-dire que quand on dialogue, moi, je reconnais ce que vous vivez, vous reconnaissez ce que je vis. Si jamais il y a eu des tensions entre nous, eh bien, on peut parler de ce qui s'est passé. La vérité, c'est-à-dire la prise sur le réel. Voilà. Mmh. Et donc, lorsqu'on dialogue, on est chacun dans des circonstances particulières, dans son existence. Et reconnaître la vérité, c'est assumer la vérité de ta situation et tu assumes la vérité de la mienne. Et comme ça, nous pouvons nous parler.
C'est exigeant.
C'est exigeant. Je crois que le pape a en arrière-fond la question des conflits entre pays, entre nations. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui sont en guerre depuis longtemps, qui ont besoin de se parler, qui ont besoin de dialoguer. Et il faut qu'on puisse reconnaître ce que les uns et les autres ont fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, pour pouvoir dialoguer. Parce que si on est dans le déni de l'histoire, on ne peut plus se parler. C'est pour ça aussi qu'il parle du pardon.
Voilà, on a besoin du pardon. Ouais.
Voilà, c'est pour ça qu'il parle du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qu'on fait entre deux personnes, quoi. Maintenant, entre deux populations, entre deux peuples, entre deux nations, entre deux pays, c'est encore autre chose. Mais je crois que là, c'est beau que le pape puisse parler de cela, parce que le pardon, c'est pas tellement une catégorie du droit. Le droit dit, il veut la justice. Hein. Bien qu'il y ait une dimension de pardon quand même dans le droit, en particulier dans le droit français. Mais... le pardon, c'est quand même beaucoup plus que ça. Hein, et on se rappelle de l'année de la miséricorde. Et il insiste aussi en disant que le pardon, c'est pas l'oubli. Hein. Quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a oublié ce qui s'est passé. On n'a pas oublié non plus ce dont l'autre est capable. Mais on dépasse cela pour continuer à vivre ensemble et pour se redire la confiance dans l'humilité mutuelle.
Et puis enfin, il parle de la transcendance aussi comme moyen pour fonder la fraternité. Alors peut-être c'est bien de redire ce qu'on entend par transcendance. Qu'est-ce que c'est que la transcendance ?
C'est-à-dire que la transcendance, c'est une référence à une entité qui est supérieure à notre humanité. Alors qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle d'autres gens, d'autres personnes, vous voyez, auront d'autres termes. Nous, pour nous, Dieu est transcendant. Ça veut dire qu'il n'est pas le produit de notre humanité. Il dépasse infiniment tout ce que nous sommes. Nous pensons, nous chrétiens, que Dieu est créateur, qu'il est sauveur. Et ce que le pape veut dire, c'est qu'au fond, quand on ne reconnaît pas une telle autorité qui nous dépasse infiniment, qui dépasse l'humanité...
Et qui nous met sur un pied d'égalité.
Un pied d'égalité, eh bien, on risque... on se soumet à qui ? Eh bien, on se soumet au plus fort. Voilà. Et donc, c'est la loi du plus fort qui triomphe. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'autorité supérieure à laquelle se référer. Mmh. Et puis le pape dit aussi cette chose évidente, c'est que la fraternité, on est frère quand on a un seul père. Et que comment on peut parler de fraternité lorsqu'il n'y a plus de paternité qui est reconnue ? Le problème dans la culture actuelle, en particulier en Occident, c'est que la paternité est suspecte. On suspecte le père, alors que le père nous rend frère.
Parce qu'elle assimile au patriarcat, enfin, il y a un système de société.
Oui, alors vous aurez tous ceux qui vous disent que c'est le patriarcat qui est mauvais, qui a donné un autoritarisme, une autorité verticale, etc. Bon, c'est pas sans rapport, vous voyez, avec toutes les lois de bioéthique aussi, où finalement, on est en ce moment de voter des lois où le père est absent, on n'a plus besoin de père. Bon, et donc un garçon peut grandir sans père. nous pensons que, vous voyez, la fraternité, elle nous est donnée parce que nous avons un seul Père. Et si saint François dit « fratelli tutti », tous frères, c'est parce qu'évidemment, nous reconnaissons un Père. Et la transcendance, c'est justement d'accepter que nous avons un Père commun. Dans cette encyclique, le pape fait plusieurs fois référence à l'imam Al-Tayeb, là, qui est le recteur de la mosquée El-Azhar en Égypte, au Caire, avec lequel il a parlé, avec lequel il a fait un document commun. Et donc on voit bien que le pape a envie aussi de s'adresser au-delà des chrétiens catholiques, aussi à tous les hommes de bonne volonté, à tous les croyants. Ça n'empêche que nous pensons que tout cela, nous pouvons être frères, mais par la grâce de Dieu, par la grâce du Sauveur, parce que Jésus, est le Fils de Dieu, est venu nous sauver, et que par le baptême, nous participons à cette grâce de la filiation, parce que nous sommes fils et filles adoptifs. Ça, le pape n'en parle pas. Peut-être que parce que tout simplement, enfin, il n'y a pas de dimension théologique, hein, la dimension de la grâce. Parce que peut-être qu'il veut être lu par tous les hommes et que la fraternité, elle ne s'adresse pas seulement aux chrétiens ou aux catholiques. Mais je pense que ça vaut le coup de le dire, qu'au fond, la fraternité entre nous, c'est d'abord un don de Dieu. Elle vient d'en haut, elle nous est donnée comme une grâce. Et on sait très bien, nous, pauvres pécheurs, que pour reconnaître que celui-là ou celle-là est mon frère ou ma sœur, eh bien, nous avons besoin vraiment de l'Esprit Saint. Pour le pardon, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Pour nous pencher sur l'autre, comme le bon samaritain, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit d'amour. Et donc, tout ça, c'est une grâce qui nous vient d'en haut.
Merci beaucoup, Monseigneur Brouvet. Alors, vous êtes en train de rédiger une lettre d'analyse, hein, de cette encyclique du pape François, qui sera disponible très bientôt, hein, dans quelques jours, sur le site internet du diocèse, catholique65.fr. Et puis, évidemment, cette émission est en podcast sur le site de Radio Présence. Voilà, pour cette analyse de l'encyclique du pape François.
Ça sera moins une analyse qu'une invitation à lire, hein, parce que moi, je ne veux pas remplacer la lecture, mais voilà, ce sont un peu des moyens pour entrer dans la lecture de cette encyclique. On mettra aussi sur le site quelques passages, hein, voilà. Mais évidemment, je peux que conseiller la lire de A à Z. Hein.
Tout le monde peut la lire et tout le monde est invité,
oui,
à cette fraternité.
Et puis alors, les catholiques, on a à recevoir une encyclique comme ça qui vient du pape. Dans la foi, hein, je me rappelle d'un curé qui recevait les lettres de son évêque à genoux, qui les lisait à genoux. Alors je dis pas qu'il faut lire l'encyclique à genoux, mais ça n'est pas un document comme un autre, comme le dernier bouquin à la mode. Je pense que on doit s'être interrogé par une encyclique, on doit accepter que le pape nous parle, le pape attire notre attention, et que par-delà des choses qu'on ne comprend pas, ou bien des agacements, eh bien, on doit accepter que le pape nous dit quelque chose, et que eh bien, nous allons être enrichis par la lecture de cette encyclique.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet.